vague culturelle.
Radio Campus 88.3
FM. Bonsoir et bienvenue dans le mag culturel. Il est 17h sur Radio Campus 88.3 FM. On est dans le hall du Théâtre d'Orléans à l'occasion de plusieurs choses. Bien déjà le spectacle stéréo de Philippe Decouflet qui joue ce soir et demain soir au théâtre. La chute des anges, ce sera la semaine prochaine. Et puis l'exposition Labyrinthe que vous pouvez découvrir ou redécouvrir jusqu'au 20 décembre ici au Théâtre d'Orléans. Hop, c'est parti. Alors, stéréo de Philippe Decouflet, donc ça joue ce soir et demain soir, ce soir à 20h30, demain soir à 19h au Théâtre Scène Nationale d'Orléans. C'est un véritable ballet rock où musique et danse ne font plus qu'un sur scène. Décors de concert ou show de TV, les musiciens Arthur Satan, Louise Decouflet et Romain Boutin jouent en live un glam rock groove et sec autour de danseurs arborant des costumes cuir et paillettes, dont les chorégraphies contemporaines se mêlent aux acrobaties et contorsions. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Violette Venti. Bonjour Violette, pardon.
Bonjour.
Baptiste Alerte, bonjour.
Bonjour.
Aurélien Houdeau, bonjour.
Bonjour.
Et Vladimir Diparc, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes interprète pour le spectacle stéréo de Philippe Decouflet, création 2022 de la compagnie DCA. Violette Venti, vous êtes artiste pluridisciplinaire, formée en danse classique et contemporaine au CNR de Boulogne-Billancourt, au CNR de Paris, au CCN de Roubaix, avec Caroline Carson et junior, au Junior Ballet de Genève. Vous travaillez pour des projets tels que 0,5% et Haunted Lud avant d'intégrer en 2012 la compagnie DCA. Vous êtes également vocaliste dans des groupes de métal depuis 2006. Vous dansez, jouez de la flûte traversière, vous chantez, vous jouez la comédie, vous utilisez des accroches aériennes. Enfin bref, vous êtes une artiste pluridisciplinaire, totalement.
J'essaye. Et c'est notamment grâce à Philippe que je fais tout ça, parce qu'il m'a permis d'apprendre certaines de ces choses au sein de la compagnie au fur et à mesure des créations.
Alors, sur le plateau également, il y a Baptiste Alerte, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes passionné par le monde du clown et vous êtes issu du Conservatoire de Nantes. Vous êtes également un artiste pluridisciplinaire vu que vous êtes également bassiste et chanteur, compositeur du groupe Cerf-Volant. Et puis vous avez travaillé également pour plusieurs projets cinématographiques. Donc vous aussi en fait, vous touchez à tout.
J'essaye, mais tout ça c'est grâce à Philippe. j'essaye un peu de toucher à tout. J'avais plus une formation de théâtre au début, mais j'ai toujours été attiré par faire d'autres choses que du théâtre. Je trouve que c'est important de se nourrir d'autres choses pour nourrir le plateau.
Aurélien Houdeau, vous êtes avec nous également. Vous êtes circassien, en fait. Vous êtes contorsionniste, vous êtes acrobate. Voilà, vous travaillez également, en fait, tout ce qui est métissage, hybridation des genres. Voilà, merci d'être là, Aurélien, également.
Merci beaucoup.
Et puis Vladimir Duparc, vous êtes danseur, vous avez étudié la danse classique et contemporaine au CRR de Nancy et puis au CNSMD de Lyon. J'adore tous ces sigles. Vous avez travaillé avec Katerina Andréou, Ioannis Mandafounis. Vous vous êtes intéressé au hip-hop également, que vous pratiquez depuis 2014, pour votre CV artistique. Donc, vous n'êtes que des artistes pluridisciplinaires. C'est aussi, en fait, le casting de rêve de Philippe Decouflet qu'on a autour de la table.
Oui, c'est vrai que c'est un peu un critère chez lui d'avoir des gens avec qui travailler, qui touchent à tout pour nourrir le plus possible le propos.
Alors, on va parler de stéréo, donc la pièce de Philippe Decouflet. À travers cette pièce, l'idée, c'est de se libérer à travers l'énergie brute du rock'n'roll avec un concert dansé, un ballet, un genre de ballet scopitone qui serait joué tout à fond, Alors, comment vous vivez l'instant, justement, cette énergie à chaque représentation ?
Il y a une certaine adrénaline avec l'énergie qu'il faut déployer à ce moment-là. La stamina qui est engagée aussi. Il faut une certaine endurance. Et on essaie de s'amuser et d'être complices les uns avec les autres.
Oui, moi j'ai l'impression qu'effectivement Philippe, il essaye de rassembler des artistes pluridisciplinaires. Et j'ai l'impression que sa grande force, c'est vraiment d'essayer de créer des équipes qui en fait s'entendent super bien. Donc il y a vraiment, je trouve, chez Philippe et dans la compagnie, une super ambiance, que ce soit au plateau, avec la technique. Du coup, ça fait qu'il y a quelque chose, il y a une énergie et on sent une ambiance déjà là, naturellement, dans le groupe, qui effectivement est mise en avant sur le plateau. Mais j'ai l'impression que c'est de là que ça part. Et j'ai l'impression que c'est aussi là que tient beaucoup le spectacle. C'est un peu nos relations, nos délires sur scène, le fait de se plonger corps et âme dans la chorégraphie ou juste de donner de l'énergie comme ça. Je pense que c'est un peu la base du spectacle pour moi.
Alors sur scène, vous êtes 5 danseurs, mais il y a aussi 3 musiciens sur scène.
Maintenant, on est 7 danseurs.
Vous êtes 7 danseurs, ouais. Ça ne fait qu'évoluer, en effet.
Ouais.
C'est une création 2022, mais qui ne cesse d'évoluer, en effet, au fil des représentations, au fil des répétitions. Donc il y a 3 musiciens en plus sur scène qui déroulent une création originale, mais aussi la playlist idéale du chorégraphe. Il y a un décor de concert ou de show TV, il y a vraiment une audace dans les costumes qui sont à la fois en effet très paillettes, très glam, mais aussi très minimalistes par moment, selon les tableaux. Et puis les chorégraphies sont très physiques, en fait, très axées sur l'acrobatie, l'irréel, la difficulté, l'impossible à réaliser, qui est une marque de fabrique, en effet, du chorégraphe. Voilà, donc il y a tout ça, en fait, sur scène, justement. Quelles sont les interconnexions ? Vous en parliez il y a très peu de temps, Aurélien. Comment, justement, tout ça, en fait, tient sur scène, déjà ?
Je dirais qu'il y a aussi, un vrai partage de connaissances de nos aptitudes respectives, on va dire, qui fait que ça fait une espèce de tornade d'énergie sur scène qui ne se décroît pas pendant 1h20, 1h30. Et voilà.
Vous incarnez des personnages sur scène, vous avez des personnages précis.
Ouais, il y a des personnages on reprend des personnages un peu iconiques du rock qu'on détourne et qu'on tourne à la dérision, surtout Aurélien, à un moment par exemple, qui fait une sorte de Elvis Presley rocambolesque.
Les costumes, on pense forcément aux Ziggy Stardust de David Bowie aussi. Ouais.
Carrément.
Là, j'ai l'impression que pour cette création, on connaît tous le travail de Philippe, notamment à Albertville, avec le gros travail en aérien ou les grandes échasses, etc. J'ai l'impression que pour ce spectacle, il a voulu revenir à quelque chose de beaucoup plus recentré sur le corps des danseurs et la musique. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez, je trouve qu'il y a une envie de chercher de la virtuosité et de trouver le côté un peu waouh qui pouvait un peu amener par des créations. Des créations mécaniques, comme beaucoup de recherches qu'ils ont fait à la chaufferie sur, encore une fois, les échasses, les contrepoids, etc.
La vidéo.
Et là, j'ai l'impression qu'il a un peu voulu gommer tous ces artifices pour revenir beaucoup plus à le corps virtuose. C'est aussi pour ça qu'il nous a clairement dit depuis le début que ce serait une création très physique, qu'on sortirait de scène, on serait tous rincés. Et puis aussi, c'est nous, on a un peu envie de jouer ce jeu-là. On est tous. C'est aussi pour ça que. À la différence de certaines pièces de Philippe, le casting est quand même relativement jeune. Il a fait un casting pour récupérer des nouveaux danseurs, pour avoir un peu une nouvelle énergie. Là où Philippe, souvent, a quand même une sorte de relation de confiance qui se construit sur plusieurs créations avec ses acteurs, comédiens, danseurs, etc. Là, il voulait vraiment une énergie brute, un peu nouvelle, pour justement amener cette virtuosité sans tous ces artifices qu'il a choisi ici de mettre de côté.
Alors, il y a de nombreuses références cinématographiques. Hein, c'est ce qui l'a inspiré, à la fois la BD et le cinéma, en effet, pour Stéréo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces références? Est-ce que vous les ressentez, vous? Comment vous les ressentez, vous les interprètes?
Ben nous, il ne nous en a pas vraiment parlé directement. Ce dont il nous a parlé, c'est que comme on a fait cette création juste après Covid, il voulait vraiment retrouver l'énergie du rock qu'il sentait quand il était plus jeune et qu'il écoutait les classiques du rock. Et il voulait retrouver ça et que les gens puissent ressentir ça du public. C'est plus ça dont il nous a parlé. Après, ses références esthétiques, il en a peut-être plus parlé à la scénographie, aux costumes et tout ça. Mais en tout cas, pour les interprètes, c'était plus l'énergie rock de la musique, plus que BD ou cinéma.
Oui, dans l'esthétique, en effet, on retrouve Phantom of the Paradise de Brian De Palma, notamment, en fait, et puis la musique également, bien sûr, de Phantom of the Paradise. Et puis, alors, Un jour sans fin de Harold Ramis avec Bill Murray, ce film où un jour se répète eh ben, à l'infini, en fait, jusqu'au moment où il trouve l'amour, c'est fabuleux. Ça vous dit quelque chose aussi, vous, ces références?
Oui, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, en plus. Mais en fait, ça, c'était au tout début de création, parce que souvent, il démarre avec peu de personnes, puis ça grossit petit à petit, puis on rajoute des interprètes, l'idée des costumes, des décors, de la musique, etc. Et quand on a démarré avec Aurélien, on a joué sur cette répétition, cette boucle de rejouer la même scène qui évolue différemment à chaque fois. Mais ça, ça a un petit peu disparu au fur et à mesure de la tournée pour se recentrer sur le côté pur, musical, énergétique. Et je pense que c'est là qu'était la référence à la base. Mais on a gardé l'idée, comme sur une machine de cassette ou de CD, de pouvoir mettre pause, stop, avance rapide, reculer. Et ça, on en joue physiquement, on essaye de le faire sur scène.
Vous revenez en arrière, vous avancez dans le spectacle.
Ouais, c'est ça qui est resté par rapport à cette recherche de base. On joue avec le rewind.
Après, moi, ce que je trouve qui reste là-dedans, c'est un peu ce côté. Alors, pour revenir à l'esthétique, BD, etc., je trouve qu'on le ressent encore dans l'interprétation, surtout que ce soit Baptiste ou effectivement mon petit passage de rocker, où je trouve que les personnages sont caricaturés, vraiment. Et là, ça devient quelque chose, je trouve, un peu slapstick, un peu BD, aussi dans cette interprétation-là. Et ce que je peux encore voir, effectivement, de ce jour sans fin, c'est en fait. Enfin, ça, c'est ma lecture. Hein. C'est que, en fait, ces interprètes, moi, je suis vraiment le gars qui se croit cool, mais en fait, c'est un peu ridicule. Ben, en fait, oui, c'est un. Comment dire, là, on l'identifie dans le temps, mais en fait, il y en a encore aujourd'hui. Et en fait, ces stéréotypes-là qu'on marque plutôt, effectivement, à Philippe, il voulait faire quelque chose par rapport à sa jeunesse, par rapport à comment lui, il continue à imaginer le rock'n'roll. Ben, en fait, ces personnages-là, il y en a encore. Alors, un peu transformés, un peu différents aujourd'hui, mais. Mais ouais, la base de ces personnages, elle est toujours actuelle.
Et la en fait, rockstar.
Ça, ouais, ça continue.
Toujours.
En fait, ça se réinvente un peu, mais pas tellement. En fait, ça continue à faire de plus en plus. Quoi. Je veux dire, non, pas de plus en plus. Toujours pareil. Toujours pareil. C'est ça que je voulais dire.
Et alors, pour continuer dans les influences, en fait, la pièce serait un hommage à Drastic Classicism de Carole Armitage. C'est l'une des œuvres emblématiques d'Armitage qui date de 1981, où. La musique de la pièce est interprétée également en live par des guitaristes, un batteur, un ensemble en fait. Et c'est la musique de Rich Chatham en fait qui est jouée. Et cette pièce en fait, elle a réellement bouleversé en fait les spectateurs, puisque bah, c'est la première fois en effet que on avait à la fois des danseurs, des joueurs de musique sur scène. Et que on y voyait en effet un art total en fait. Voilà, donc ça fait partie de vos influences également, j'imagine en fait. Armitage. Alors, on le disait, hein, trois musiciens sur scène, un décor de show TV, des costumes tout à fait paillettes, extravagants et à la fois ultra chic, magnifique et parfois minimaliste. Et puis, il y a aussi cette narration qui est particulière, où il y a de nombreux moments humoristiques dans la pièce, qui est aussi pensée comme un concert avec des interludes de sketch. Et c'est vous, Baptiste, qui faites le lien entre ces différents éléments du spectacle. Comment, justement, intervient la mise en scène de Philippe de Coufflet à cet endroit du spectacle ?
Tu veux dire les passages que j'ai écrits c'est arrivé assez tard dans la création au final, parce que dans le procédé d'écriture de Philippe, il travaille les tableaux séparément au début et il va construire l'ordre de son spectacle d'un chaos un peu au début. Ça va être très difficile. C'était difficile au début pour moi de trouver qu'est-ce que j'allais bien pouvoir écrire, parce que je ne savais pas trop de quoi je pouvais rebondir, de ce qu'il y avait avant en termes d'énergie aussi, qu'est-ce qu'il allait aussi avoir après. Philippe, il adore faire des choses sensibles et drôles et remplies d'énergie, et il adore aussi les contrepoints. Ce qui fait que je me retrouve à être un espèce de fil rouge qui n'a j'arrive pas à trouver les mots que je veux dire.
Vous êtes le conducteur de la pièce.
Oui. En tout cas, vu que je suis le seul à prendre vraiment la parole, c'est vrai que ça raccroche un peu plus les gens sur OK, qu'est-ce qui se passe en fait. Et je joue aussi, comme un peu Aurélien à un moment, des chanteurs un peu qui se prennent un peu trop au sérieux. Et j'en joue. Voilà.
Mais moi, j'ai l'impression que Philippe, dans son écriture, il y a quelque chose de très instinctif. Et que ça se ressent en fait à tous les niveaux, que ce soit la musique, que ce soit les costumes. En fait, il n'y a pas forcément une sorte de narration très claire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, dans la création, est très instinctif par choix. Il se dit « Ah bah ce truc-là, je le sens bien. » On ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, mais en fait, il assume de se dire « Là, j'ai envie que ce soit quelque chose de très glam. » Là où j'ai l'impression que certains pourraient plutôt mettre voudraient un peu intellectualiser. Lui, il est très brut et très, très direct dans sa façon de créer. Et pour lui, il y a des moments, c'était « Là, ça enchaîne un peu trop avec les tableaux musiques. Il faut quelque chose. Créons quelque chose. »
Et c'est justement... ce sens de l'improvisation qui vous permet, Baptiste, comme ça, de trouver sur le moment, alors que vous trouvez pas forcément les mots ici.
Je suis très très bon à la radio. pendant les répétitions, effectivement, c'était souvent des conneries et des idées qui venaient sur le moment un peu pour trouver, pour écrire et tout ça. Mais c'est vrai que l'improvisation, c'est une écriture de toute façon. Et l'écriture est une improvisation.
Et alors, parlons des costumes un peu. Tout à l'heure, juste avant qu'on s'installe, vous parliez que vous aviez une nouvelle veste, vous avez un nouveau costume ou quelque chose.
Non, c'est pas le même projet.
C'est pas le même projet. Non, je croyais que vous parliez du spectacle.
Oui.
Enfin, les costumes, ils ont évolué tout au long de la création, et grâce à notamment Anatole. Qui est un technicien, mais qui s'occupe aussi des costumes. Et c'est vrai que Philippe est très indécis sur beaucoup de choses, et ça lui arrive, souvent d'avoir des nouvelles idées, de changer d'un coup, de passer d'un pantalon très long, énorme, très large, à d'un coup un mini-short, parce qu'il a eu cette vision dans la nuit, et que d'un coup, il faut avoir ça. Et donc, du coup, ça a un peu changé tout au long. Mais là, ça fait un moment que... On garde les mêmes.
Alors, question pratique, vous êtes acrobate, vous êtes danseuse, danseuse, performeur. Comment justement on adapte sa pratique, ce qu'on doit faire au costume, s'il change en plus? Comment le costume, il vous permet aussi d'incarner le personnage ou de vous libérer davantage?
C'est sûr que ça aide beaucoup. Après, Anatole Badiali fait très attention à ce qu'il y ait des matières assez stretch, assez solides. Il fait très attention à notre confort quand même. Mais effectivement, des fois, on doit adapter un petit peu les mouvements, les glissades au sol, les choses comme ça. On se griffe un peu. Moi, je griffe Vladimir quand il me porte. Mais bon, il serre les dents. C'est vrai que ça aide à se mettre dans le personnage, c'est sûr.
Non, mais oui, c'est sûr que des fois, quand on a des représentations à 17h et qu'on doit être à fond au plateau, à se jeter partout par terre, c'est vrai que des fois ça aide un peu lumière, costume, paillettes, ouais. Parce que des fois on n'a pas forcément envie de faire ce qu'on a fait à la créa au plateau, comme ça, d'un coup de redonner ça à chaque fois. Mais c'est vrai que les costumes aide beaucoup et Anatole justement est très à l'écoute là-dessus, il nous aide bien quoi.
D'ailleurs, il y a deux jours, on a répété sans costume, sans lumière, sans décor,
ouais,
sans
c'est
rien.
Dur.
Et on se rend compte à chaque fois que...
Bah, c'est encore plus dur pour l'énergie.
C'est plus dur, ouais.
Alors, merci beaucoup Violette Wanty, Baptiste Alerte, Aurélien Oudot, Vladimir Duparc. Pour Stéréo de Philippe Decouflet, c'est ce soir au Théâtre d'Orléans à partir de 20h30 et demain à 19h. Stéréo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Stéréo, merci. En effet, bien. C'est aussi des musiciens sur le plateau et notamment J.C. Satan que nous avons découvert, nous, avec un album. Il y a de nombreuses années, en 2012, c'était l'album Faraway Land sur Teenage Menopause Records. Et puis on va écouter, nous, Damnation, tout de suite sur Campus. On est dans le MAC culturel, on est au Théâtre d'Orléans.
Yeah.
gut feeling, c'était Divo à l'instant. On peut se mettre debout si on a envie.
Voilà, on peut être assis aussi.
Voilà, on peut danser dans le hall du Théâtre d'Orléans pendant le direct de Radio Campus Orléans. Il n'y a pas de souci. J'en perds mon micro. Alors, Gut Feeling de Divo, ça fait partie en effet de la bande-son, de la playlist Philippe Decoufflet, hein, que vous retrouvez dans Stéréo, le spectacle qui joue ce soir et demain soir au Théâtre d'Orléans. Voilà, il n'y a pas seulement ça dans la playlist, il y a les Beach Boys, il y a des tubes en fait, vraiment, Surfing USA, il y a
Queen of the Stone Age,
Home Heartache de Roxy Music, il y a les Beatles, il y a en effet Queen of the Stone Age, enfin bref, que des titres emblématiques du rock'n'roll glam quand même. Alors, Élise, Laurie, bonjour.
Bonjour.
Tu es chargée des relations avec le public. Et Emeline Guéméné, bonjour.
Bonjour.
Chargée de l'information au Théâtre d'Orléans, scène nationale. Alors, vous venez, vous, nous parler de La Chute des Anges de Raphaël Boitel et Tristan Baudouin. Ce sera les 26 et 27 novembre prochains. Rapidement, en effet, vous avez vu le spectacle à Châteauroux, à l'Équinoxe, la scène nationale de Châteauroux. Et rapidement, en fait, on va parler un petit peu de La Chute des Anges pour donner envie à nos auditeurs et auditrices d'aller voir le spectacle. Alors, très rapidement, que se passe-t-il dans ce spectacle, La Chute des Anges ? Qu'arrive-t-il aux anges, en fait ?
Vas-y, Emeline, tu peux commencer.
Bah déjà, moi, j'avais juste envie d'expliquer à nos auditeurs ce qu'était une scène nationale un peu, parce que c'est vrai que donc à Orléans, on a la chance d'avoir une scène nationale. Mais ce n'est pas la seule dans la région. Il y en a une à Blois, il y en a une à Châteauroux. C'est un label qui est décerné par l'État et qui existe depuis les années 90 et qui a été mis en place en 91. Donc voilà, peut-être qu'on ne l'a jamais dit, donc c'est l'occasion. Et donc parfois, il y a des programmations qui sont conjointes à plusieurs scènes nationales. Donc c'est pour ça, en septembre, on a eu l'opportunité d'aller voir le spectacle de Raphaël Boitel à Châteauroux. C'était une très belle découverte. C'est un univers plutôt caractéristique du cirque d'image, on pourrait appeler ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des acrobaties, mais il va y avoir aussi beaucoup d'éléments visuels qui vont se rapprocher du cinéma, qui vont être marquants. Il va y avoir des jeux de lumière, des jeux d'ombre.
En fait, on peut pas le... Enfin, en tout cas, pour moi, je le mettrais pas dans la catégorie cirque pur parce que ça... Ça fait appel à divers genres artistiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'inspirations différentes. Et notamment, les artistes viennent aussi d'univers différents. Donc, ça se ressent. Moi, j'ai vu du cirque visuel, en effet, des performances, mais aussi du cinéma, enfin, du théâtre, de la danse aussi, parce qu'il y a beaucoup de performances dansées. C'est très chorégraphié.
Il y a vraiment un gros travail sur la lumière. Hein. On voit des clairs-obscurs.
En fait, pardon. On était synchro. Oh oui.
Moi, je suis passionnée de cinéma et j'ai vu le lien tout de suite. Je me suis vraiment... la lumière, Emeline reparlera de la bande-son, mais au niveau des images, vraiment, il y avait un très, très gros rapprochement avec le cinéma. Et d'ailleurs, Raphaël Boitel, il y a eu une rencontre après le spectacle, a dit que voilà, il y avait beaucoup d'inspiration, notamment de liens avec les films de science-fiction. Oui, vraiment, film science-fiction, ça, je l'ai vraiment vu. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un spectacle qui traite quand même, enfin, qui a un côté dystopique. Mais par contre, vraiment, avec Emeline, ça, on le dit, parce que sur les images, ça peut paraître avec un sujet aussi un peu sombre. Oui, c'est sombre. Il y a des jeux de lumière, mais c'est assez sombre. Le sujet peut être sombre, mais c'est pas triste. C'est pas, on n'est pas mal en ressortant, on n'est pas nostalgique.
C'est une noirceur qui est très poétique, très douce, et qui vraiment, enfin, on retrouve cette petite lumière dans cette noirceur. Derrière nous, on avait des enfants qui n'arrêtaient pas de rigoler, puisque Élise parle du côté cinématographique. Il y a aussi toute une ambiance un peu de type des films de Tex Avery. Voilà, il n'y a pas de parole sur scène, mais il y a du théâtre. Et il y a vraiment cette alliance parfaite entre tous ces arts, la musique, la danse, le cirque, l'ambiance cinématographique. Et du coup, c'est vrai que la musique, moi, c'est l'un de mes coups de cœur aussi, parce que bah, j'aime beaucoup l'univers musical. Et franchement, cette musique-là m'a marquée, parce que des fois, on peut avoir certains artistes qui laissent un peu de côté la musique. Là, Raphaël Boitel, elle travaille vraiment avec son créateur sonore qui s'appelle Arthur Bison, qui travaille notamment pour le cinéma. voilà, tout s'imbrique pour créer cette œuvre vraiment magnifique. D'ailleurs, la musique, elle est écoutable sur notre site internet.
Et
voilà.
Sur Bandcamp, en effet. Oui. Tout est.
On a partagé le lien. Mm-hmm.
Et donc, on revient à l'histoire. En fait, l'histoire, c'est que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus voler. Voilà, c'est.
Alors ça, par contre, c'est vrai qu'on donnera pas la réponse sur ce plateau.
Non, bien sûr.
Pour laisser les spectateurs et spectatrices
spoiler tout le monde.
Voilà, se faire aussi leur imaginaire. Mais c'est vrai que nous, on s'est laissé porter tout au long du spectacle par la. Ouais, il y a quand même une certaine douceur, une fluidité dans toutes ces images. Et bon, voilà, on a passé vraiment un bon moment et donc on a envie que les spectateurs et spectatrices orléanaises puissent découvrir son travail. On avait déjà eu l'opportunité il y a quelques années de découvrir le travail de son frère puisqu'elle fait partie d'une famille de circassiens. Donc on avait accueilli Camille Boitel, pardon, il y a très très longtemps. Donc voilà, c'est une opportunité de faire découvrir le travail de Raphaël Boitel qui reviendra sans doute dans les saisons à venir.
Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que comme il n'y a pas de texte, donc c'est très, très universel, et notamment les enfants qui rigolaient derrière nous étaient allemands, donc, tout le monde peut venir. Et il n'y a pas de texte, donc il y a quand même une base, il y a une histoire, mais en fait, on se rend compte que chacun peut se raconter son histoire. Et nous, avec Emeline, on a vu des choses différentes. Il y a cette base avec cet univers qui est, où on a de plus en plus de machines, mais très vite, ces anges vont aussi s'emparer de tout ça. Et ça, ce qui est important aussi, c'est de dire que l'importance aujourd'hui d'être ensemble face à tout ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas.
C'est aussi ce que dit Raphaël, la metteur en scène, puisqu'elle, on a profité de cette petite rencontre avec Élise pour capter quelques images et une interview qu'on peut retrouver sur notre compte Instagram. Théâtre d'Orléans, c'est national, voilà, vous pouvez nous chercher. Et c'est vrai que Raphaël, pour elle, c'est important, en fait, de faire communauté. Et même, je pense que ça se ressent aussi dans le travail qu'elle effectue avec les interprètes qui sont aussi venus à la rencontre, qui expliquaient qu'ils avaient aussi pu participer à des phases de construction, incarner leurs personnages, chacun à leur manière.
Bah, ils ont chacun aussi leur rôle en tant qu'ange sur le plateau. Ils ont chacun leur univers.
Ils ont chacun un agrès aussi, en fait.
Oui. C'est,
donc, un appareil ou une lance, une perche, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ils ont chacun, en effet, un univers qui est aussi dédié à leur pratique, en fait. Quelque part, on reste, en effet, dans une pratique circassienne, quoi qu'il arrive. Quoi.
Et puis, ça ressemble un peu à notre monde, parce que il n'y a pas un standard, en fait, de ces personnages dans la pièce. Et notre monde, il est fait aussi de ça, de cette diversité. Finalement, il y a un sujet qui peut être assez lourd, important, et qui peut ne pas être vu au premier abord. Et puis, si on a envie de juste se laisser porter, on peut. Et si on a envie de creuser plus loin et d'interroger notre monde, le rapport aux autres, et ben on peut aussi, avec cette pièce-là, se questionner et donner envie de faire se donner envie de créer des belles choses avec d'autres personnes.
Bah c'est pour ça, je sais pas si t'as ressenti ça aussi, Emeline, mais Raphaël, elle en dit pas non plus trop sur la pièce. Il y a une base, mais elle laisse vraiment chaque spectateur se faire son idée du spectacle, se raconter le pourquoi du comment, et c'est ça aussi qui nous a emmené avec Emeline. On s'est laissé vraiment porter et on s'est vraiment tous, enfin toutes les deux, raconter une histoire un peu la même base, mais après complètement différente. Et c'est ça que je trouve très intéressant.
Et que du coup, chacun ou chacune avec notre vécu, on s'invente, on s'imagine aussi quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'on n'allait pas donner la oui. réponse pour les anges. Et voilà, quelles images on va se construire, et notamment ces images cinématographiques, parce qu'il y a vraiment cet univers aussi musical qui nous porte, et on a un peu l'impression d'être comme devant un film, en fait, qui défile devant nos yeux. Peut-être le film de la vie, de notre vie, voilà.
La vie rêvée des anges. tu es totalement en crush avec la musique d'Arthur Bizon, Emeline.
Ah ouais, vraiment. Ah ouais.
Donc, on va pouvoir diffuser à nos auditeurs, en effet, un extrait de La Chute des Anges, la bande originale, par Arthur Bizon. C'est Crystal Lips. Voilà, on va découvrir un petit peu cet univers de La Chute des Anges que vous pourrez découvrir les 26 et 27 novembre ici au Théâtre d'Orléans, c'est national.
On a toutes les deux une petite chose à annoncer pour les auditeurs qui ne voient pas. On est en train de lever le doigt pour dire qu'il y aura une rencontre avec l'équipe artistique le mardi 26 Pour après la séance de 20h30, ce sera juste après le spectacle. Ça peut être intéressant voilà, de rester en salle pour partager avec les artistes. C'est toujours un moment où on apprend des petites choses croustillantes sur la construction
du
spectacle.
Oui, puis on est dans l'effervescence, en effet, de son ressenti du spectacle. Et c'est là que...
C'est le moment parfait pour partager son émotion.
Et là, toute l'équipe, enfin, vraiment, il y a tous les artistes qui viennent échanger avec le public et on partage aussi leur vécu, leur histoire et c'est très, très chouette.
Alors, merci beaucoup, Emeline. Merci beaucoup, Élise, d'avoir participé à ce plateau avec votre expérience du spectacle La Chute des Anges. Crystal Lips, un extrait de la BO de La Chute des Anges par Arthur Bizon. On écoute tout de suite.
Thank you.
Alors, c'était la bande originale du spectacle de La Chute des Anges de Raphaël Boitel et Tristan Baudouin. Musique donc de Arthur Bison qu'on écoutait à l'instant dans le MAC culturel. On est toujours ici au Théâtre d'Orléans et au Théâtre d'Orléans vous pouvez toujours voir l'exposition Labyrinthe du collectif Mirabilia etc. jusqu'au 20 décembre. Alors Labyrinthe, c'est une expérience immersive, un cabinet de curiosité où les artistes dévoilent dans un parcours ludique et parfois énigmatique leur univers mystérieux. Les artistes, c'est Jean-Philippe Bouin, Guillaume Brabant, Andrea Madweber et Andy Kraft. Et vous êtes avec nous sur le plateau, Guillaume Brabant et Andy Kraft. Bonjour.
Et bonjour.
Et merci d'être là. Alors, ce n'est pas la première fois, en effet, que vous occupez cette galerie du théâtre pour nous proposer une expérience unique, puisque c'est la 5e édition, en effet, du Labyrinthe. Ça a toujours été un labyrinthe, ça a toujours été une proposition comme ça de cabinet de curiosité.
Alors, de cabinet de curiosité, oui, de Labyrinthe, c'est la première année. C'est parti en 2014. J'avais ouvert mon atelier à des artistes par rapport à... C'était Parcours au Jardin, je ne sais pas si vous voyez cet événement.
Oui, un événement orléanais où les jardins sont ouverts.
Voilà, les jardins sont ouverts et où les habitants accueillent des musiciens, des lectures, de la peinture, plein d'autres choses. Et j'avais ouvert mon atelier parce que je connaissais deux, trois artistes dont on ne voyait jamais le travail. Et donc voilà, c'est devenu un cabinet de curiosité. Pour l'occasion, on l'appelait le cabinet curieux. Et on a continué à développer ça plusieurs années, en invitant plus ou moins les mêmes artistes, un petit groupe toujours, et puis qui évolue avec d'autres invités. Et après, en ayant rencontré Andy, Andrea et deux, trois autres, Lascar, dont je trouvais qu'on ne voyait pas assez souvent le travail non plus, et dont le travail me touchait vraiment, qui d'ailleurs eux-mêmes... et sont presque un petit cabinet de curiosité eux tout seuls. On est tous un peu... C'est ce qui nous lie tous aussi. Et donc là, j'ai reconduit l'histoire, ça leur a beaucoup plu, et on a c'est le 5e opus là, du cabinet curieux, qui cette année s'appelle Labyrinthe, parce qu'on a axé plus la thématique sur le au niveau du parcours du labyrinthe, on dit c'est un peu ça.
Oui, c'est ça, et puis on avait aussi un peu invité les gens à jouer là, dans cette exposition, puisque... L'ouverture du plateau nous permet de construire des cloisons, des espaces et des choses, parce que quand on arrive, il n'y a rien du tout. Et ça fait vraiment une promenade dans laquelle on peut se perdre avec tous ces signes et toutes ces choses-là, ce qui nous donne aussi l'occasion de donner des rendez-vous un peu particuliers les vendredis après-midi pour y faire des activités, des jeux, des lectures, des choses comme ça, pour essayer un peu du coup d'amener les gens à voir cette exposition autrement.
Voilà.
Alors, c'était comme ça ces deux derniers vendredis. Est-ce que vous poursuivez en effet en décembre ces rendez-vous?
Oui, c'est ça. Tous les vendredis, mm-hmm. il y aura quelque chose. Ce vendredi-là, on va amener des textes. Jean-Philippe et moi, on est les auteurs. Andrea, Guillaume ont choisi des textes qu'ils aiment bien. Donc on va les lire ou les donner à lire ou les passer aux gens ou demander aux gens de les lire pour les autres. Enfin, le type de relation est possible. Et puis, la semaine suivante, on aura des ateliers, c'est-à-dire qu'on va chacun amener notre table de travail et puis travailler sur place directement, faire devant les gens.
Donc, on va vous voir à l'œuvre.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et alors, moi, je reviens sur le nom du collectif Mirabilia. Alors, c'est autour des cabinets de curiosité. Il y a les domaines du Naturalia et du Mirabilia. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux domaines? Alors, Naturalia, on arrive bien à voir. Mirabilia, il y a quelque chose du théâtre, en fait, dans Mirabilia.
Alors, ça peut nous emmener là, pourquoi pas. C'est la définition traditionnelle, en fait, du cabinet de curiosité qui amène trois types de choses présentées, collectionnées, si vous voulez. C'est des objets artistiques, des œuvres d'art, mais des curiosités naturelles, des choses qui étaient du fond de la mer ou des roches ou des choses comme ça, des fleurs, enfin des curiosités. Et puis aussi une partie technique, scientifique, des découvertes, des choses. Et en fait, c'est les relations, le dialogue, se fait entre ces différents types d'objets. Alors, Le théâtre, Jean-Philippe Bouin qui nous fait des décors, des objets scéniques un peu, effectivement.
Qui nous a rejoint sur le plateau. Hein. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe.
Là, il pourra en parler bien plus lui-même. Mais effectivement, lui nous amène à nous promener. On est très proche. La peinture devient théâtre ou espace de jeu. Enfin, c'est ça. Et puis, donc l'idée de nous emmener peut-être vers cette idée du théâtre, sans doute.
Il y a une grande différence entre le cabinet de curiosité et la galerie, par exemple. On est habitué à aller voir les expositions, surtout de peinture, dans des galeries aujourd'hui. Le cabinet de curiosité, c'est l'ancêtre du musée. C'était aussi un choix à faire. C'est beaucoup plus individuel, c'est-à-dire que c'est un collectionneur au départ qui s'entoure des objets qu'il aime, qu'il a trouvé à travers le monde, mais des objets manufacturés, enfin des artefacts, comme on dit. Et en fait, il s'entoure de ces objets et il les montre à des privilégiés. Alors que la galerie, on défile devant des œuvres. Voilà la grande différence, en fait.
Et puis, c'est ouvert à tous.
La galerie est ouverte à tous.
Voilà, la galerie.
Le cabinet, c'est un peu plus privé, un peu plus secret aussi. C'est pour ça que ça nous correspond bien. Ça correspond bien à l'univers d'un artiste, en tout cas. C'est sa tête.
Et d'où aussi, cette année, Mirabilia a ouvert ses portes à deux collectionneurs. Ça, c'est la première fois, parce que pour le coup, c'est vraiment une illustration parfaite de ce qu'on voulait faire et démontrer, il me semble.
Bah oui, il fallait un petit peu.
En enregistrant et en ouvrant le propos aussi.
Voilà, on a concrétisé la définition, si vous voulez.
Et puis, il y a vous, Andrea Matt-Weber. Vous êtes costumière, habilleuse au théâtre d'Orléans. Vous ne parlez pas, mais peut-être n'avez-vous pas envie de parler. Mais
elle bouge ses mains, on la voit.
Je voulais préciser en effet que vous êtes artiste plasticienne, vous êtes costumière également. Et puis, vous tissez en fait des matériaux ensemble pour créer des œuvres en effet assez poétiques. Et donc, vous faites partie également de ce collectif Mirabilia. Je voulais le préciser puisque vous êtes une femme et que vous n'avez pas pris la parole en fait. À côté de tous ces hommes, en fait. Voilà.
C'est notre caution.
On a tout essayé, pourtant.
Handicraft, Jean-Philippe Bouin, Guillaume Brabant, qu'est-ce qui vous rassemble, en effet, dans vos œuvres, dans votre esthétique, et Andrea également, en effet.
La différence.
Oui. La différence.
Non, bien sûr que nos univers sont apparemment très différents, ils s'expriment en tout cas différemment, mais je pense qu'on a un fond commun. En tout cas, on a des points communs, au moins 2x2, 3x3, on se recoupe aussi à travers nos recherches. Par exemple, Guillaume, lui, fait de la peinture sinistre. Et moi, je fais de la peinture youpi, quoi, à côté.
Je suis là pour enlever un peu de joie et de magnifique de couleur à cette exposition. Il faut faire attention, pas trop de bonheur à la fois, par le temps qui court, il faut rester en sérieux.
Mais finalement, on parle des mêmes choses.
Peut-être les sujets, effectivement, autour de la vie, des petites choses de la vie, de la mort. Peut-être la façon aussi de poser un humour sur ces choses-là. Peut-être une façon une peu distance. Dérisoire.
On a
distance.
Quand même tous un certain décalage aussi par rapport à la noirceur et à plein de choses.
Ça, sans doute. Et puis, effectivement, là, d'ailleurs, au bout de... Comme c'est la cinquième, on s'aperçoit que... au début de la cinquième, quelqu'un arrive en disant « Ah, j'ai fait ça, ça ressemble un peu à toi, mais c'est pas toi, c'est moi qui l'ai fait. »
Et effectivement, vous inspirez les uns des autres.
Disons que les
recherches... On se déteint les uns des autres.
C'est
possible, ça.
C'est une concurrence, en fait.
Est-ce que c'est le noir qui gagne?
Bien sûr, toujours.
Non, je crois pas.
Tu vois.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Bouin, Guillaume Brabant, Andrea Matt-Weber qui nous a quittés, qui est parti dans ses costumes, je pense. Et Handicraft, d'être venu avec nous clore ce plateau au Théâtre d'Orléans. On rappelle que vous pouvez toujours voir l'exposition Labyrinthe de votre collectif Mirabilia, etc. jusqu'au 20 décembre dans la galerie du Théâtre à l'étage. Ça a l'air fabuleux, je vais aller me balader dans tout ça.
Avec plaisir.
Je vais me perdre dans le labyrinthe du théâtre.
Adieu.
Merci.
Alors, pour clore ce plateau, on a choisi une dernière musique, c'est Ennio Morricone, pour faire le lien avec le spectacle du Réveillon Nouvel An, Notte Morricone. J'ai choisi Allegretto per Signora de 1970, extrait de la BO du film Photo interdite d'une bourgeoise. Alors, je vais essayer de le dire en italien. Les photos proibite di una signora per bene. C'est un giallo, un policier italien réalisé par Luciano Ercoli, qui est sorti en 1970. Je ne sais pas si ça fait partie, en effet, des musiques qui ont été choisies pour le spectacle du Nouvel An qui vous est proposé par le Théâtre d'Orléans, scène nationale. Donc, le spectacle est signé Marcos Moro et Alter Balletto. Et c'est les 31 décembre et le 1er janvier ici. Alors, réservez vite parce que c'est toujours très prisé, ce spectacle de fin d'année. Ennio Morricone, et puis une bonne soirée sur Radio Campus 88.3. La 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 la